Je remercie Jérôme de proposer d'animer cet atelier et puis surtout d'avoir accepté de prendre le risque de l'orienter autour de la question de l'acceptabilité sociale et de l'urgence environnementale. Alors pourquoi cette réflexion ? Je vais partir d'un exemple. Je dirige un programme au niveau du ministère de l'écologie. Alors, je ne sais plus exactement le nom actuel du ministère de l'écologie parce qu'il change tous les 4 matins, qui s'intitule ITECOP, c'est sur les infrastructures de transport des écosystèmes et des paysages. Et on a une particularité intéressante dans le mode de financement de ce programme scientifique qui est qu'à 70%, le dernier appel d'offres a été financé par le secteur privé, des grands opérateurs d'infrastructures, etc. Et là, on a fait un bilan avec eux pour savoir si on tentait de prolonger l'expérimentation et puis savoir s'ils avaient été satisfaits des travaux qu'on avait produits. Alors, ils sont pleinement satisfaits, nous ont-ils dit, et on leur a demandé sur quoi ils souhaitaient qu'on travaille avec eux dans le prochain appel d'offres. Et une des thématiques qu'ils nous ont mis en avant, c'est la question de l'acceptabilité sociale. Et donc, je leur ai posé la question, mais qu'est-ce que vous entendez par acceptabilité sociale ? En gros, c'est leur point de vue est de dire nous avons fait beaucoup d'efforts sur le plan des normes environnementales de construction des routes, des autoroutes, des infrastructures, et par conséquent, on s'étonne qu'il y ait encore des résistances, qu'il y ait encore des oppositions, qu'il y ait encore des choses. Donc, il faut que vous nous aidiez, ont-ils dit, à ce que notre effort soit visible et soit audible par les populations concernées, par les habitants, etc. Donc, autrement dit, on voit bien que cette question de l'acceptabilité sociale, elle suppose, et c'est un point important sur lequel on va revenir, l'adoption de procédures qui permettent l'appropriation par les acteurs sociaux de dispositifs, de normes, de manières de voir, de faire, de construire, finalement, et d'accepter les options qui sont choisies par les préconisateurs. Donc il y a une asymétrie extrêmement intéressante puisqu'on est sur l'idée que ce que l'on va vous proposer devrait être normalement accepté puisqu'on s'est conformé à un certain nombre de normes de référentiel qui sont ceux de l'effort qu'on attend d'un décideur ou d'un opérateur. Alors c'est évidemment un processus de construction sociale, ça je trouve que c'est clairement rappelé dans les notes que Jérôme nous a envoyées. Mais l'objectif, c'est évidemment de se lever des oppositions potentielles et de minimiser les oppositions formelles. Alors, c'est d'autant plus intéressant qu'on voit bien qu'on est sur des formes de renouveau de la conflictualité environnementale, c'est-à-dire à la fois une réflexion sur les conditions de la participation au processus de négociation proposé par les opérateurs ou les hommes politiques, voire même un refus de participer. Hein. On a vu ça sur la question des nanotechnologies, mais je pense que Alain y reviendra dans sa communication. Et puis on est aussi sur des motivations et des pratiques des acteurs qui ont changé. Et ça, c'est extrêmement important. C'est de bien, là encore une fois, l'exemple des opérateurs d'ITECOP, c'est effectivement des gens qui ont fait des efforts sur le respect des normes environnementales, qui ont changé leur process de construction, etc. etc. Alors c'est bien évidemment un enjeu de gestion, hein. Il ne faut pas oublier que cette question de l'acceptabilité sociale a pour origine ces sciences de gestion, donc on voit bien que c'est quelque chose d'assez pratique hein, comme orientation. Et puis c'est bien aussi un enjeu particulier parce qu'il s'agit d'orienter d'une certaine manière les orientations politiques. Et là, le lien avec le développement durable est intéressant puisque le développement durable se proposait d'être une sorte de référentiel de l'orientation des politiques publiques. Alors, comment on aboutit à une décision partagée dès lors qu'on met en place un certain nombre de processus de négociation, dès lors qu'on met en place un certain nombre de procédures. Cette question de la méthodologie dans l'acceptabilité sociale, elle est fondamentale. Alors, bien évidemment, je dis ça parce que je suis politiste et que la question de la méthode d'élaboration des décisions est importante, mais je crois que c'est aussi une méthode puisqu'elle va mettre en jeu un élément important sur lequel on va se baser tout au long de cette journée, qui est celle des référentiels de l'acceptabilité. C'est moins la question de savoir qui impose, qui va nous interroger ici, mais de savoir au nom de quelle valeur on demande cette acceptabilité sociale. Alors, du côté de ces procédures sont produites à la fois par les milieux politiques, les milieux de la décision publique. Hein, on n'abordera pas tellement cette question aujourd'hui. J'ai rien dans la communication, je le ferai un peu plus tard. Mais aussi du côté de la recherche scientifique. Et là, je trouve que c'est un élément extrêmement intéressant. C'est pour ça que j'ai, dans la construction de cette journée d'études, j'ai trouvé intéressant qu'on ait à la fois des chercheurs confirmés et puis aussi des spécialistes de la réflexion sur la décision citoyenne, de manière à ce qu'on puisse créer un dialogue entre les experts, les scientifiques, entre guillemets, et d'autres formes d'expertise de l'intervention sociale. Alors, du côté de la recherche scientifique, la recherche, elle est de plus en plus sollicitée pour explorer l'accompagnement à la décision publique. Alors, je travaille dans un institut qui s'appelle AgroParisTech, où on voit bien que cette frontière entre la décision de la manière de faire, de la manière de produire, et la manière dont on incite finalement dans la formation et dans la recherche à l'élaboration d'un certain nombre de cadres qui vont accepter ce genre de choses. Alors ça touche beaucoup de disciplines scientifiques, j'ai relevé pas mal de publications, évidemment en sciences de gestion, psychologie sociale, en économie comportementale, sciences de la communication, jusqu'aux neurosciences qui travaillent sur la manière dont les individus peuvent ou pas réagir à des stimuli pour voir un petit peu ce qu'ils acceptent ou pas. Alors, on ne va pas faire de neurosciences ici, mais ça serait vraiment intéressant de pouvoir dialoguer avec eux. Trois dimensions principales de cette acceptabilité sociale, deux que je signale simplement, et la troisième qui va nous interroger tout au long de cette journée. La première, elle est d'ordre épistémologique, c'est la place du scientifique dans cette procédure. Quelle est notre responsabilité de chercheur lorsqu'on accompagne une procédure d'acceptabilité? Là, il y a tout un enjeu. Là, encore une fois, je prends l'exemple sur le cas d'ITECOP. Comment on amène des chercheurs qui travaillent sur des continuités écologiques à s'interroger sur l'accompagnement qu'ils produisent en produisant l'expertise scientifique. Alors ça, c'est une méthodologie intéressante sur les conditions d'un savoir scientifique réflexif. C'est pas là-dessus qu'on va essentiellement travailler. La deuxième figure, la deuxième interrogation, ce sont les modalités de cette acceptabilité. Ça, c'est ce qui renvoie spécifiquement à la méthodologie de l'acceptabilité. Alors, c'est un gros volet extrêmement important, notamment dans les sciences de la gestion, dans les sciences économiques et dans les sciences politiques. Comment on accompagne finalement les processus? Et il y a une question centrale là-dedans, c'est la question participative. On a bien vu comment finalement les sciences de la participation pouvaient à la fois canaliser cette dynamique de la négociation et l'orienter avec une logique incertaine entre information, participation, délibération. Il y a vraiment une incertitude complète de ces frontières et surtout une utilisation extrêmement fine de la part du secteur public et du secteur privé. L'objectif étant effectivement de faire baisser les conflits environnementaux et de permettre un certain nombre. Tu t'es perdu ?
Exactement.
Viens là, Steph. Voilà. Troisième dimension qu'on va essayer de traiter davantage dans le cadre de cet atelier aujourd'hui, c'est les référentiels qui sont mobilisés pour finalement participer à cette acceptabilité sociale. Dans des procédures, il y a à la fois le plan formel, le plan organisationnel, est-ce qu'on fait un référendum ou pas pour Notre-Dame-de-Lande, etc. L'intérêt, c'est d'essayer de voir, par contre, quels sont les référentiels qui vont être mobilisés pour construire ces procédures. Sur quoi, finalement, on justifie le principe de l'acceptabilité sociale? Au nom de quelles valeurs on va mobiliser implicitement la procédure participative, par exemple, il y a implicitement l'idée qu'on est dans une logique démocratique. Tout processus participatif est nécessairement démocratique. Je le dis un peu caricaturalement. On va aussi utiliser un référentiel de la pacification du débat public. Et en cela, le cheval de Troie du développement durable sert parfaitement cette cause, l'idée qu'il puisse y avoir un compromis implicite, puisque chacun est d'accord pour l'idée d'un équilibre tacite entre l'environnement, le social et l'économie. C'est, à mon avis, le livre de Corinne Gendron sur le compromis du développement durable qui illustre le mieux cette perspective d'une négociation extrêmement pragmatique de la question du développement durable, chacun ayant bien évidemment un intérêt à concilier avec l'autre, mais bien évidemment dans une dynamique de croissance économique, qualité, la sixième étape, si vous voulez. idée dans la logique de Rousseau. Hein. Après, l'idéal de la société d'abondance, eh bien, nous sommes, dit Franck-Dominique Vivien, dans la sixième étape. La sixième étape, c'est la société d'abondance verte. Hein. C'est le capitalisme vert, la croissance verte, appelez-la comme vous voulez. Donc cette idée que cette acceptabilité sociale, finalement, elle fournit, nous disent Fortin et Fournis, un alibi sémantique pour assurer ou justifier la reconduction de pratiques usuelles, et j'ai envie de rajouter, et de référentiels usuels, hein, les référentiels du développement, les référentiels de la croissance, de la compétitivité entre les territoires, etc. Alors, la question, c'est de savoir ces mêmes référentiels, finalement, classiquement dans ce qu'on appelle la question de l'acceptabilité sociale, fonctionnent dans un même univers partagé. L'univers technique, ce que Alain rappellera, ou ce que les deux intervenants de ce matin vont critiquer, par exemple. L'univers aussi de la décision démocratique, hein, l'ouverture du débat suppose une meilleure prise en compte des oppositions, etc. Univers aussi de référence dans l'idée que le débat nécessairement va produire une solution qui sera plus adaptée au projet et qui va améliorer le projet. Hein. C'est cette idée que on est dans une amélioration en cours d'un processus de construction du projet. Le problème, c'est que ces référentiels posent problème. Et c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. Ces référentiels posent problème parce qu'ils ont tendance à euphémiser, à mettre à distance, voire même à relayer ou à disqualifier un certain nombre de référentiels qui posent effectivement des problèmes plus fondamentaux sur la question de l'acceptabilité sociale. On peut être dans l'acceptabilité sociale tant qu'on est tous d'accord sur l'idée d'un développement durable relativement consensuel. Par contre, si on est sur un référentiel plus dur, au sens de durabilité forte, hein, du développement durable, eh bien ça pose problème. Puisque, dans ce cas-là, il faudrait interroger les mécanismes classiques de la participation, la référence à la norme technique, la référence à la pratique délibérative, non pas simplement sur comment on va améliorer le dispositif en lui-même, mais par rapport à quoi on va l'améliorer. Donc, l'idée de cet atelier, c'est de considérer que les normes environnementales, notamment posées à partir des crises, des ruptures irréversibles, et pas simplement l'idée d'une continuité progressive grâce à l'amélioration des dispositifs techniques, okay, c'est-à-dire qu'on est bien sur des ruptures, et ça c'est l'idée de la fin que Stéphane traitera dans un instant, c'est de savoir à partir du moment où on impose cette idée que c'est un référentiel acceptable et discutable, et qui amène donc à des positions d'effondrement, hein, c'est ce que Stéphane verra tout à l'heure, traitera tout cet après-midi, si c'est désormais un référentiel acceptable, eh bien on ne peut pas positionner de la même manière la question de l'acceptabilité sociale. D'accord, c'est des points de rupture, si vous voulez, à la fois théoriques, mais à la fois qui sont basés sur un certain nombre de considérations scientifiques. Par conséquent, ces points de rupture, eh bien, ils imposent l'idée que les référentiels doivent être discutés. On ne peut pas poser la question de l'acceptabilité sociale simplement pour éviter le conflit. Peut-être qu'il faut faire générer le conflit pour montrer qu'effectivement, ce que l'on avait accepté est finalement inacceptable sur le plan écologique, par exemple, ou sur le plan technologique, ou sur le plan social. Hein, si on prend l'exemple de la négociation démocratique de l'accord Schengen, c'est démocratiquement acceptable puisque ça a été débattu démocratiquement, mais c'est socialement inacceptable par rapport à un certain nombre de conséquences que ça a généré au niveau des populations migrants. Ça, c'est l'interrogation que a extrêmement bien démontré Welser dans son livre sur les guerres du climat. Donc, ça concerne pas simplement les dispositifs participatifs, ça concerne aussi les questions de la temporalité. L'idée de l'acceptabilité sociale suppose toujours une capacité de renégociation du cadre dans lequel on va agir. Les ruptures environnementales supposent qu'il y a des phases de possibles effondrements et donc des possibles basculements temporels. C'est-à-dire, classiquement, la crise de la biodiversité, une fois qu'une espèce a disparu, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, qu'est-ce que ça impacte dans l'organisation d'un modèle de développement, d'aménagement du territoire ? Si on raisonne à l'échelle globale de la biodiversité, on se dit « bon, on trouvera toujours une solution ». Si on raisonne localement à partir d'une espèce sur un territoire spécifique, eh bien ça entraîne un autre type de réflexion. Alors on peut faire le choix démocratique que cette espèce n'a aucun intérêt et qu'on participe à sa crise. Par conséquent, on voit bien que poser la question de l'urgence environnementale suppose de réévaluer finalement un certain nombre d'implicites sur les référentiels. Alors c'est bien évidemment un objet de critique assez classique dans un certain nombre de théories d'écologie politique. Hein. C'est assez classique dans un certain nombre de théories critiques sur le plan, par exemple, de ce qu'on appelle les courants de la décroissance. Mais ça reste extrêmement marginal, notamment dans l'espace scientifique. C'est-à-dire que ce n'est pas à partir de ces questions qu'on interroge la question de l'acceptabilité sociale, la question des procédures, la question des dispositifs techniques, etc. Donc l'idée, c'est de voir si cette hypothèse est relativement pertinente. Alors, pour ce faire, on a quatre brillants et gentils intervenants qui ont accepté de se déplacer en période de vacances. Donc, Hicham Stéphane Afaïssa, qui est professeur de philosophie, qui a fait un essai extrêmement bien. Enfin, de toute façon, tous les bouquins que vous présentez sont extrêmement bien, bien sûr. La fin du monde et de l'humanité. Alors, on peut dire, si je te présente comme un agnostique, ça te va? Quelqu'un qui a pris au sérieux l'hypothèse sans forcément être un militant de cette hypothèse.
Oui, voilà, ça va.
D'accord. Ce qui permet effectivement d'avoir un regard critique toujours intéressant dans le bouquin, que je ne partage pas toujours, sur justement, je pense que tu dois être un peu plus militant, mais enfin, ça c'est chaud. Voilà. Et donc, Stéphane nous fera un discours sur accepter la fin. Il a gentiment accepté de travailler sur cette thématique-là. Édouard Joly, qui est je vais dire en français, hein,
oui, vas-y,
après tu vas te moquer de moi, qui fait un postdoc à Louvain, la flamande, et qui a fait une thèse remarquable sur l'approche philosophique de Günther Anders, qui est un auteur extrêmement intéressant, qui pose justement la question de l'irréversibilité de la technique et de voir ce que ça entraîne sur la question de la compréhension du rapport à la philosophie et aussi à la politique, mais je pense qu'il va d'abord avoir un point de vue de philosophe. Cet après-midi, on aura Raphaël Stevens, qui est chercheur indépendant, spécialisé en résilience des systèmes socio-écologiques, formateur et surtout auteur d'un ouvrage avec Pablo Servigne, « Comment tout peut s'effondrer », qui est un ouvrage extrêmement intéressant puisque les premiers chapitres font un résumé extrêmement bien construit. C'est vraiment, si vous avez des étudiants, c'est génial parce que ça condense tout, il ne faut pas leur citer les sources, comme ça on fait très intelligent. Et c'est un bouquin extrêmement intéressant dans les premiers chapitres qui rappelle justement ces situations inacceptables au sens propre du terme. Et puis, ce qui est extrêmement intéressant aussi dans le livre, c'est que ce n'est pas un bréviaire de solutions. Je trouve que la pertinence de l'essai, hein, c'est comme ça qu'il faut le proposer, c'est une incitation à poser un certain nombre de questions et à en débattre. Et donc je pense que Raphaël continuera ça tout à l'heure. Il va nous rappeler comment ce livre a été reçu et ce qu'il en déduit aujourd'hui de son niveau de réflexion. Et enfin, Alain Kaufmann, qui m'a fait le plaisir de m'offrir un bouquin que je n'ai pas eu le temps de lire, puisqu'il vient de me le donner, sociologue et biologiste, directeur de l'interface science-société de l'Université de Lausanne, nous avons beaucoup de représentants suisses aujourd'hui, et belges, qui va intervenir sur la question justement des ruptures techniques et de ces limites de cette présentation entre démocratie, technique et participation. Puisqu'on voit bien que là, la question de la démocratie écologique pose la manière de reposer ces pratiques et la manière de poser la question de la technique.